les plus de Quillancourt, c'était la bagarre. Premier jour de travail, première bagarre. Okay. Voilà.
Donc c'est comme ça, c'est un peu... En vrai, c'est un peu le milieu des puces, faut s'imposer.
C'est le milieu des puces, donc coup de barre à mine, il m'a mis, je remets coup de barre. C'était l'album à Booba, on le vendait là-bas. On travaille avec eux, on travaille avec tout le monde, nous, tu vois. Mm. Donc après, du jour au lendemain, il a commencé à se la raconter. On l'a falsifié son CD, on l'a vendu. Et Alpha, il a dit, viens quand tu veux. Viens chercher tes sous.
Vous aviez vendu... j'avais pas cette histoire. Vous aviez vendu un faux CD de Booba, en fait.
En fait, on vendait le faux CD de Booba, ouais, sans le code barre.
Combien t'as vendu de t-shirts, à peu près, tu sais?
Franchement, en une année à la grande époque, oh, j'ai dépassé le million facile. Hein. Ouais.
Donc c'était du gros business.
C'était du gros business.
Bienvenue dans Merci le Merch.
Merci le Merch.
Ça va, Marseille? Ça va tranquille ou quoi?
Ça va, merci mon champion déjà. Je te remercie pour cette invitation, mon frérot. Et je remercie à toi et à toute ton équipe.
Merci mon ref.
Et surtout la machine de guerre, les grands patrons, la best of bot. World.
Bien, ouais, je, voilà,
I love you, baby. Voilà.
Merci, mon ref, d'être là. Comme je te l'ai dit, et comme je te le redis ici, la période que tu représentes, la période Quillancourt, vente de t-shirts, etc., elle est hyper importante pour nous, pour la team. Elle fait partie de l'histoire, comme je te l'ai dit. Et c'est la raison pour laquelle on voulait te recevoir ici et parler de ton parcours avec toi. Je te remercie d'être venu. Et c'est la première fois qu'on se voit, je tiens à le dire aussi. Et ça, j'aime bien parce qu'on va apprendre à se connaître et à se découvrir au fil du podcast. Et ça, c'est très cool. Et je te remercie beaucoup d'être venu ici. Je vais nous voir.
Et merci mille fois aussi. Hein. C'est très gentil, mon champion. Et merci pour l'accueil. Vous m'avez très bien accueilli, les jeunes.
Normal. Alors, on va mener cette discussion en trois parties. On va beaucoup parler de ton parcours et ton hustle, comme j'aime dire, pour vendre des t-shirts et faire tout ce que tu as fait en indépendant. La première partie, c'est justement ça, comment se développer en tant qu'indépendant. En deuxième partie, on va parler de Quillancourt, de comment ça se passe là-bas. J'ai grave des questions parce que j'ai suivi que via des vidéos ou en étant venu de quelques fois, mais on sait pas comment ça se passe au jour le jour. Et en dernier, on va parler des réseaux sociaux et de ta gestion des réseaux sociaux.
Super, parfait.
Donc, la première question ici, donc c'est un podcast, comme je te l'ai dit, qui parle de vêtements, de streetwear, de merchandising, tout ce qui est en rapport aux vêtements. Déjà, savoir quand est-ce que tu commences, comment ça se passe l'étincelle du début, qui est Morsaï avant de faire tout ça, comment tu t'habilles, en quelle année on est déjà?
On est en 1998, quand j'ai commencé avec l'équipe de Truand de la Galère, mais le rap, on l'a commencé en 2003-2004.
Ok. Tu commences par quoi du coup? Tu commences par le rap ou tu commences par les t-shirts?
Ouais, on commence par les vêtements. Moi, c'est les vêtements.
D'abord la marque.
Moi, je suis un drogué.
Et donc en 98, rappelle-nous un peu, c'est comment? Tu t'habilles comment? Qu'est-ce que tu as envie de faire?
Alors, nous, on s'habillait, tu as vu, à l'époque, ça s'habillait en taquini, en Lacoste. Bon, tu connais Lacoste. Bon, après, ça faisait un peu trop racaille, mais nous, c'était plus taquini, plus Nike, tu vois.
En survêt, en tout cas.
Survêt, ouais.
On allait pas du survêt, des requins.
Requins.
Ouais.
On était à l'aise. Et en fait, compte, moi, je m'habillais, mais c'était trop fast, tu vois. C'était trop... je sais pas, il y avait un truc qui me manquait, tu vois.
Ouais.
Je me sentais pas... Je voulais un truc qui était bien, tu vois. Il y avait pas.
C'est-à-dire que ça te plaisait même pas plus que ça, t'es Sergio et tout, tu voulais, ouais, tu voulais représenter ton truc aussi en même temps,
j'imagine un petit peu. Voilà. Okay. Moi, je portais taquini, je portais un peu ça, mais c'était, il n'y avait pas un truc qui m'attirait vraiment dans la sap. Moi, je voulais un truc, tu vois, ghetto, tu vois.
Un truc qui nous représente un peu plus, qui vous représente un peu plus, Truand de la Galère.
C'est ça. Voilà.
Et c'est quoi, du coup, ta première pièce, du coup? Comment ça se lance? Quel est le premier t-shirt? Raconte l'histoire du début, genre, comment ça se lance?
Voilà, alors le premier t-shirt, moi je voulais trop faire ce t-shirt-là. Alors c'était, je voulais avoir un... Bon, il y avait déjà les manteaux à l'époque. J'ai travaillé avec un ami à moi, il s'appelait David, c'était un bon gars. Et il faisait les cuirs. Et je dis, je veux un cuir avec un drapeau algérien derrière. Et il me dit, vas-y, je vais te le faire. Et ça a commencé comme ça. Et après, en fait, compte, moi, j'avais, à l'époque, je voulais vraiment faire ma marque, mais... J'avais pas l'intention de vouloir la créer, quoi.
Tu dis, je me fais des
t-shirts pour moi.
Je me fais des trucs pour moi.
Pour moi.
Ce qui commence comment, tout souvent comme ça dans les histoires de vêtements de rappeurs. Hein.
Voilà. Ouais, c'est ça. Et j'avais fait le premier t-shirt. J'avais fait Si tu m'aimes pas, va niquer ta mère. Mais ce t-shirt-là, il a été mal aperçu parce que les gens ne comprenaient pas ce t-shirt-là. J'insulte personne dans ce t-shirt. C'était un t-shirt que j'avais fait. C'était pour dire aux gens, je vous aime tous.
Ok.
Mais ceux qui ne m'aiment pas, nique ta mère.
Ok. Tu vois déjà, ok, donc le premier t-shirt, ça, c'est important pour la suite. C'est un message déjà.
C'est un message.
C'est important pour tout l'ADN truc dans la galère, moi, voilà. Je trouvais, pour ta suite à toi. Et donc, du coup, pourquoi les gens l'aiment pas? Qu'est-ce qui se passe?
Ils croyaient que je les insultais.
Ok.
Mais non, j'insulte personne. Moi, j'aime tout le monde.
Mm.
J'aimais pas ceux qui m'aimaient pas, tout ouais. simplement. Et ce t-shirt-là, c'était un. C'était, pour moi, c'était un très bon t-shirt parce que. Tu sais, des fois, quand, en fait, les histoires à l'époque, si tu te rappelles, tu prenais le train, tu montais dans le train, le mec, il te regarde travers, ouais. ça finissait en castagnette, ouais. tu vois, en bagarre.
Je m'en rappelle.
Et pour pas que ça se finisse en bagarre, ben, ça détendait, tu vois. Même les contrôles de police, tu sais, quand ils te fouillaient, ils disaient retire ta veste, retire, mets tes mains sur le volant, mets sur le truc, mets ça, mets ci. Et quand ils te retiraient ta veste, tu vois, t'étais fier, tu me disais, tu vas même que ta mère, tu vois.
Vas-y, t'avais rien dit, mais il y avait un message.
Il y avait un message.
Ouais.
C'était un petit kiff, tu vois.
Ouais.
Ça nous détendait en même temps.
Ouais, ça c'était le côté revendicateur, ça.
Voilà.
Revendicateur, on l'a tous eu. On a tous eu comme ça, en vrai.
C'est vrai.
Et donc, du coup, ça, c'est le premier modèle que tu fais. Mais tu le fais pour toi.
Voilà.
Et comment tu sens après qu'il y a une demande ou un truc comme ça? Est-ce que tu crées d'autres choses qui t'emmènent ici ou qui t'emmènent à ça ou...
Alors, en fait, c'était mon frère Zaref. Il faisait les départements. Il faisait 95.
Ouais.
Il faisait... il aimait bien parce que lui, il disait beaucoup dans ses morceaux 95. Et puis moi, j'étais pas d'accord. Dès le départ qu'on a commencé la marque, j'étais pas d'accord parce que moi je venais de sortir de placard, j'avais des potes du 93, des potes de Lyon, des potes de Marseille, des mecs de la Suisse, de la Belgique.
Tu voulais pas un truc sectaire, c'est vrai que toi t'as jamais été sectaire. Jamais. Si je me souviens bien dans tes vidéos, tu représentes tout le monde, etc. Ouais, je comprends.
Voilà. Et moi quand je sortais de prison, moi j'ai eu des potes de partout.
Ouais.
Et c'est pas pour autant, j'aurais pu faire un tête-à-tête en prison avec un mec de chez moi du 95. Donc quand je le voyais, il mettait 95, je comprenais pas, j'ai dit mais c'est bidon. Fait tous les départements, il y a des mecs bien et des mauvais partout.
Ouais.
Et moi, j'étais sur la base d'ouverture. Lui, il était plus dans la base du 95.
C'est lui des sectaires. Et toi, plus, voilà. Plus en mode, vas-y, on représente tout le monde.
Voilà, c'est ça. Donc après, moi, j'aimais bien... je pouvais porter un t-shirt de Marseille.
Ouais.
Parce que j'avais des potes à Marseille, comme un t-shirt de Lyon, 69. Comme Bordeaux, 33. Comme Lille, 59. Je les connais tous, presque, les départements.
Ouais. Et tu connaissais beaucoup de monde de partout.
C'est ça. Et donc, après, moi, c'est ça que j'ai bien aimé, faire des t-shirts pour tout le monde.
Ouais. Et donc, là, t'as lancé des trucs un peu tout département, ou alors c'est soit on monte tous les départements, soit on montrait, on fait des messages. C'était quoi la réflexion?
Les deux, ouais. Parce que on commençait un peu à bouger. Nous, on faisait pas des concerts. Nous, on allait directement vendre nos t-shirts de ville en ville.
Ah, ok. À la base, vous déplaciez pour vendre les trucs.
Voilà. On avait une petite camionnette. On mettait les t-shirts. On prenait la meilleure ou le meilleur vendeur du quartier.
Du secteur, ouais.
Du secteur.
Du commercial.
Voilà. On prenait les meilleurs avec nous parce que la place, ça coûtait cher.
Ouais. Je vois. C'est un bon move, je trouve.
C'était
c'est
à l'époque.
Un très bon move.
Puis on allait vendre nos t-shirts à Metz, à Borny, à Strasbourg, à Mulhouse, en Bretagne, partout.
Et genre, tu les faisais produire chez quelqu'un qui fait des t-shirts?
Oui.
Tu faisais des stocks, tu faisais comment?
Voilà, alors au départ, on cherchait quelqu'un qui nous produisait. Bon, il nous faisait un peu trop cher, mais il était sympa, donc on continuait à travailler avec lui. Mais après, on a ouvert une petite... mais plus tard, hein, bien après, qu'on avait un peu plus de sous, parce que c'est les moyens, hein, c'est les moyens pour ouvrir. Il faut un loco, les locaux, ça coûte de l'argent, faut poser les sous, faut des sous, quoi.
Ouais, faut des sous, bien sûr.
Et puis, nous, on était... on faisait un petit feu, et puis voilà, on a essayé de s'en sortir comme ça.
Et donc, c'était ça. Et vous tourniez, vous vendiez des t-shirts et vous commenciez à faire connaître le nom truand de la galère, en vrai.
C'est ça, voilà.
Et donc, du coup, en termes de chiffres, est-ce que tu as vu quelque chose exploser d'un seul coup, t'arriver, ou c'était vraiment petit à petit, on se débrouille comme on peut et on fait monter le truc, ou à un moment, t'as senti vraiment qu'il y avait un engouement, déjà?
Alors, en fait, c'est à cause des vidéos que j'ai fait derrière. Parce qu'on vendait tranquille, tu vois.
Ouais.
On est au marché aux puces, on a une petite place. On n'est pas trop gourmand. Tu vois, on n'était pas gourmand. On ne courait pas très vraiment derrière l'argent. On ne cherchait pas vraiment chiffre. On aimait bien quand quelqu'un portait notre marque.
Ouais. Donc ça, c'est un vrai kiff. Hein.
Ouais, c'était un vrai kiff.
Quand tu croises des gens qui portent ta marque que tu ne connais pas, c'est...
C'est de bonheur, ça, franchement. Donc, moi, je me rappelle, j'avais fait un truc qui avait cartonné. C'est que j'avais un sac avec moi.
Ouais.
Et j'avais toujours des t-shirts. Et je disais, promis, les 10 premières personnes que je trouve qui ont ma marque, je leur donne un autre t-shirt.
Okay.
Et j'en ai trouvé des gens, je leur donnais des t-shirts, ils ne comprenaient pas. Il y en avait, ils portaient ma marque, ils ne savaient même pas que c'était moi. Alors moi, je me la racontais. Moi, je crois qu'il porte ma marque. Ça, il me connaît. Rien du tout.
Mais encore mieux, hein, en vrai. Parce qu'il a porté sans même te connaître. C'est là que tu vois que ta marque, elle va plus loin que ton propre personnage, en vrai.
C'est vrai.
Et du coup, le rap, il est associé à la même période à peu près. Comment ça se passe en termes de période? C'est-à-dire que tu me parlais de vidéo. Est-ce que d'abord, c'est des clips? Est-ce que d'abord, c'est des trucs? Ou c'est une vidéo particulière qui fait connaître ta marque?
Oui, c'était plutôt... on travaillait avec les DJ bien avant. Donc, DJ Abdel, DJ Kaïs, tous ces DJ, on les a connus. Donc, déjà, je voulais les remercier et les dédicacer parce qu'ils venaient tous à mon stand. Nous, on leur vendait leurs propres CD. Et... il y en a qui sont percés, qu'on a connus, ça fait vraiment plaisir.
Tu vendais les CD des DJ qui venaient les déposer au même titre que des rappeurs pouvaient déposer leur maxi ou leur album à Urban Music à
Châtelet.
À Châtelet,
bravo, ouais. Tu connais très bien.
Ouais.
Un génie avec nous, l'équipe. Ouais, attention, c'est toi, on a une grande masse. Là, on a une machine de guerre.
Ouais, donc tu faisais aussi du dépôt-vente d'albums aussi.
C'est ça, voilà.
Et juste pour remettre Clignancourt, tes premières ventes à Clignancourt, c'est en quelle année?
Alors, je ne pourrais plus trop te dire, mais je sais que, parce que j'ai fait de la prison entre-temps, donc j'ai vendu un petit peu avant de tomber au placard, et quand je suis ressorti, c'est là qu'on s'est mis vraiment sérieusement.
Et tu t'es dit, vas-y,
on va commencer à arrêter de faire les cons, on ne va pas y aller toute notre vie en prison, on va arrêter les conneries, on va arrêter le shit et ces conneries de merde.
C'est pour ça que t'étais béton plusieurs fois.
C'est ça.
Pour trafic.
Et on s'est dit, on va vraiment travailler dans le streetwear, c'est bien plus kiffant, c'est mieux, et tu fais du mal à personne. Tu fais kiffer les gens.
Tu fais kiffer les gens, tu donnes du plaisir aux gens.
Voilà.
Mais finalement, là, on est en train de parler d'un truc qui est devenu historique, donc c'est pour ça que t'es là, tu vois. Ça a marché, en vrai. Ça a marché ou pas?
Ça a marché, ça va.
Ça a marché. Et donc, tu commences à... Comment t'arrives à Clignancourt?
Alors, comment j'arrive à Clignancourt? Moi, en fait, compte, pour avoir une place, c'était impossible parce que tout le monde était... Il y avait des numéros, donc il y avait genre de 1 à 10 000.
C'était
des numéros de stand. Et à chaque fois qu'on venait le week-end, samedi ou dimanche, on arrive... on marche, on attend pour avoir une place, il n'y a pas.
Parce que c'est des places qui sont volantes, en fait. C'est à chaque fois, le mec, il vient, il prend sa place avant de faire le marché.
Voilà, en fait, il y a 1000 places, mais il y a 10 000 cartes qui ont été données.
OK.
Donc, si tu viens et il n'y a personne... voilà, exemple, moi, j'ai le numéro 500.
Ouais.
Et le 501, il est là. Et moi, j'ai la place 500, c'est moi qui aura la place.
Ok.
Tu vois?
Ça se passe comme ça.
Ça se passe comme ça.
Et ils redistribuent les cartes à chaque week-end?
Chaque week-end, ouais. On a tous des cartes et on se présente avec notre carte. Donc, lui, il prenait les cartes. Il mettait du 1 à la dernière.
Ok.
Et les places qui restaient, parce qu'il y avait des places déjà qui étaient déjà données. Donc, c'était ceux qui...
J'imagine qu'il y avait quelques arrangements.
Voilà, et moi, je ne connaissais pas ce système-là.
Toi, t'arrives, tu connais rien de Clignancourt, ni personne de Clignancourt.
Je connaissais Clignancourt parce que j'ai grandi à côté, puisque j'avais mon frère qui habitait là-bas.
Okay.
Mais moi, c'était. Je voulais vendre mes t-shirts, tu vois.
Tu y allais par le passage classique. Tu allais voir la personne, etc.
Et j'ai vu que c'était pas ça marche pas comme ça, en fait.
Okay.
Il faut casser des portes.
Okay.
Il faut donner un billet.
Okay.
Il faut s'embrouiller. Okay. Il faut prendre ta place. Et il faut être gentil, mais il faut être strict.
Dix ans plus?
Parce que j'avais eu la place, le placier, je lui avais donné 100 balles, il me donne ma place. Au moment où j'ai ma place, je vais chercher mes tréteaux dans ma voiture, je reviens à quelqu'un qui a pris ma place.
Ok.
Et je lui dis, ouais, mais le placier me l'a donné, j'ai rien à foutre, c'est ma place.
Yeah, ok.
Et je ne savais pas comment, parce que moi, je voulais être gentil avec mes voisins. Tu ne peux pas faire la guerre avec ton propre voisin quand même.
Compliqué, ouais.
Donc, je me dis, bon, vas-y, c'est pas grave. Moi, j'aime pas faire la guerre avec mes propres voisins. Toute ma vie, je vais les voir à côté de moi.
Ouais.
Donc, j'ai lâché l'affaire. Je lui ai dit, c'est pas grave, vas-y, c'est bon. Le lendemain, je reviens, je lui dis, ouais, mais il m'a pris ma place. Il me dit, ah non, faut être sans pitié, tu la prends. Lui, je l'aime pas. Et en plus de ça, tu le tapes, je m'en fous.
Ok.
Et il fout la merde partout. Donc, je savais que c'était quelqu'un qui était déjà pas trop aimé. Donc, je dis, bon, si je le tape, je vais pas avoir trop d'ennemis.
Ouais.
Le lendemain, je reviens, il me dit non. Je dis par contre, aujourd'hui, hier, t'as bien mangé.
Tu l'as laissé une journée quand même.
Une journée, j'ai essayé. Le lendemain, t'as vu, t'as bien mangé. Oui. Moi, aujourd'hui, c'est moi qui vais manger. Toi, t'as eu ton riz, t'as eu tes pâtes ou t'as eu ta soupe.
Ouais.
Moi, aujourd'hui, j'ai soif, j'ai faim. Si tu me laisses pas manger, je vais boire ton sang. Donc, c'était la guerre déjà.
Ouais.
Ça a commencé, les puces de Clignancourt, c'était la bagarre. Premier jour de travail, première bagarre.
Okay.
Voilà.
Donc c'est comme ça, c'est un peu... En vrai, c'est un peu le milieu des puces, il faut s'imposer.
C'est le milieu des puces. Donc, coup de barre à mine, il m'a mis, je lui remets coup de barre, j'étais des trucs et tout ça. Mais moi, comme je suis trop hargneux et puis je suis trop nerveux, l'erreur que j'ai, c'est un truc qu'il ne faut pas avoir dans la vie, je suis reparti et j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai pris un marteau et je lui ai mis un coup de marteau sur la tête et j'ai re-été en prison.
Ah ouais, pour ça ?
Ouais.
Ah ouais.
Mais on a eu la place. Donc, ça a fait plus...
C'est ouf. T'as pris combien pour ça ?
J'ai pris 2 ans ferme. Putain. Donc, j'ai fait 1 an plein. Mais on a eu la place. Quand je suis revenu, il y avait une putain de place. Je suis arrivé comme une star.
On parle de sacrifice de ouf, en vrai.
Sacrifice, ouais.
Ça, c'est un sacrifice de ouf. Enfin, je veux dire... Ouais. En fait, t'aurais pas dû le faire, ça se réglait comme ça.
Ça, je regrettais de le faire parce que la personne, maintenant, je le connais, il a une cicatrice et il est super gentil. Bon, il s'est calmé parce qu'avec le temps et tout. Donc,
ouais, ça, tu regrettes toujours
ce je regrette.
Et en plus, peut-être que le truc, il serait réglé sans ça, en fait. C'est en plus, ça t'avait mis un peu la haine et t'as voulu te venger. Ouais, bref, c'est ça. Ouais. Donc, t'as eu ta place à client, quoi.
Voilà.
Tu as payé cher, mais tu l'as eu.
Cher, je l'ai eu.
Et là, maintenant, tu as ta place attitrée tout le temps, tous les week-ends
c'est ouais, je peux avoir une place attitrée. Et après, bon, moi, j'en avais marre d'être dans le froid, parce que l'hiver, c'est dur quand hiver, tu es dans le froid et tout, c'est dur. Donc, ouais. Je voulais une petite boutique, donc après, j'ai pris une boutique.
Une boutique, ça veut dire, ouais, d'accord, c'est ouais, ça, c'est le fixe, c'est les boutiques qu'il y a. Et aujourd'hui, tu m'as dit que tu as 2 boutiques à Clignancourt.
Oui, voilà.
Tu continues de vendre des vêtements.
Voilà.
Ok. Est-ce que tu sais combien de vêtements, combien de t-shirts, combien de CD tu as pu vendre ? Est-ce que tu as une idée ?
Non.
Mais c'est énorme ou pas ?
C'est énorme. Mais moi, ça m'a dépassé.
Ok. Tu sais, des fois, j'entends certains artistes, certains rappeurs, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup à l'ère des chiffres, de ventes, des trucs comme ça, tu vois. Et je me rappelle qu'à un moment, il y avait une espèce de polémique et les rappeurs parlaient de « vas-y on s'en fout des ventes. Maintenant, c'est le chiffre d'affaires qui compte, ce qui est totalement réel. Hein, tu vois, je pense que les ventes, c'est du marketing pour se placer et pour encore plus que les gens t'écoutent. Et c'est un placement, tu vois. Toi, t'es vraiment le mec avec Alpha et toute l'équipe qui viennent avant toi, il me semble. Ils arrivent avant, avec Clignancourt, les Alpha et tout, si je me rends.
Alors, Alpha, il est arrivé dans le rap avant nous.
Ouais.
Mais dans les ventes, on était avant lui.
Oh, ok.
Voilà.
C'est très intéressant, ça. On va en reparler de toute façon. Et donc, vous avez choisi... chiffre d'affaires, on fait du business, on s'en fout du monde de la musique.
On s'en fout.
Ouais. On fait notre propre économie.
C'est vrai.
Et t'as vendu du CD, j'imagine.
Ouais, c'est pour ça que j'aimais beaucoup d'ailleurs Alpha 520, parce qu'Alpha, c'est vraiment. Dans le rap, j'ai jamais vu un rappeur comme ça dans ma vie entière. Alpha, il a jamais vendu son âme pour le diable, et encore moins pour un chanteur ou une chanson. Tu vois, c'était quelqu'un qui était vrai. Et il a ce côté, il a un grand amour pour l'Afrique et ça me touchait beaucoup parce qu'il envoyait beaucoup en Afrique. Et ça c'était une... On a bossé, on a fait beaucoup d'argent avec lui. D'ailleurs, on avait vendu le CD de l'autre cloche de Booba et on l'a mis à la page, quoi. On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses.
Tu parles parce que je m'en rappelle un moment... Je me rappelle de certaines mixtapes d'Alpha 520 où figuraient des sons. Tu parles de ça ou rien à voir ?
Rien à voir. C'était l'album à Booba. On le vendait là-bas. On travaillait avec eux. On travaillait avec tout le monde, nous, tu vois. Donc après, du jour au lendemain, il a commencé à se la raconter. On l'a falsifié son CD. On l'a vendu. Et Alpha, il a dit, viens quand tu veux. Viens chercher tes sous.
Vous aviez vendu... ça, j'avais pas cette histoire. Vous aviez vendu un faux CD de Booba, en fait ?
En fait, on vendait le faux CD de Booba, ouais, sans le code barre. Parce qu'à l'époque, on lui prenait à 2,50 et du jour au lendemain, il a dit non, je vous le fais à 8 balles, c'est fini.
Ah, vous bossiez bien ensemble
bossait,
alors.
On bossait avec...
avec les maisons de disques, j'imagine.
Non, même pas, il n'était pas encore avec maison de disques. À l'époque, il n'était pas encore maison de disques, il était encore avec 45 scientifiques, avec...
Jean-Pierre Sec.
Comment il s'appelle
Géraldo.
Géraldo et tout ça, mais encore avant avec Poncev, comment il s'appelle?
Avec Ali?
Non, leur premier producteur.
Leur premier producteur,
j'ai chanté avec lui, j'oublie son nom, je suis ailleurs.
Zoxy,
très gentil Zoxy. Mmh. Après, en fait, de toute façon, le CD, on le vendait. On n'a pas aimé la façon comment ils nous ont manqué de respect.
Okay.
Et moi, je savais déjà que c'était un traître parce qu'il mangeait sur tous les râteliers en sachant qu'il pensait qu'à ses intérêts personnels. Donc moi, à l'époque, je m'entendais bien avec lui. D'ailleurs, dans le morceau à Nesbill, il me dédicace, hein, faut le savoir. Moi, c'est avant que je tombe au placard.
Baby ?
Je crois, je ne sais plus le morceau.
Nesbill Booba ?
À un moment, il me dédicace, mais derrière, si c'est pour insulter mon frérot Alpha, Alpha, c'est avec qui j'ai grandi, j'ai travaillé, j'ai mangé du pain. Moi, ça ne marche pas. Mmh. Tu ne peux pas insulter. Donc, tu nous as insulté quand moi, je suis au placard. Je suis sorti, vengeance.
Et la vengeance, tu parles de CD.
Des insultes et ouais, ah. le CD, on a vendu, on a falsifié son CD. C'est-à-dire que quand il arrivait au concert, il ouvrait son CD. Il voyait, derrière, il n'y avait pas de... Tu sais, le code barre. Il craquait, il disait, vas-y, casse-toi avec ton CD.
Mais ce que je veux savoir, c'est que du coup, si vous vendiez des albums, ça, c'est vrai que j'avais pas, enfin, j'ai pas tous les souvenirs, mais on va en parler parce que je l'ai vécu cette période et je l'ai vu. Si vous vendiez des CD de rap français, ça veut dire que vous représentiez une potentielle force dans la vente de CD.
Oui.
Et par rapport à la Fnac et tout, c'était, enfin, est-ce que tu sais que si vous vendiez, enfin, si les artistes plaçaient des CD chez vous, donc il fallait qu'ils soient validés par vous, j'imagine. Il y avait un espèce de truc de si je te respecte, je vends ton CD, sinon non, j'imagine. Mais en termes de chiffres, vous en vendiez beaucoup aussi.
On en vendait plein, on vendait la Secret Connexion, on vendait IAM, okay. on vendait la Mafia Qu'un Fri,
okay.
on cartonnait les CD de Kerry James, les CD de 113,
c'est
on
fort. A cartonné, et vous arrangez comment vous arrangez, vous achetiez des CD
Ils nous les ramenaient,
les artistes eux-mêmes.
Les artistes eux-mêmes, fort. Ils nous les ramenaient, on en prenait 1500, 100 pièces, ça dépend.
Et ça veut dire en plus que c'est des CD qui n'étaient pas comptés dans les charts si elles étaient vendues hors de la Fnac à main à la main, mais donc c'est une histoire de réputation carrément, ouais, voilà. J'ai l'impression.
Ouais.
L'artiste, s'il est vendu à Clignancourt, il est validé un peu par la rue c'est et ça. C'était cool en fait.
Parce qu'à Clignancourt, il y avait à l'époque le monde entier qui venait nous voir.
Ouais.
Ça a un petit peu chuté, mais c'est moins qu'avant parce qu'avec les agressions, les fusillades qu'il y a eu, mais sinon, il y avait des gens de Suisse, les gens de la Belgique. Des gens du Maroc, d'Algérie, qui venaient du Canada. Donc,
il y avait une crédibilité de la vente de CD à Clignancourt et la vente de t-shirts. Et j'ai vu que par la suite, mais ça, on va en reparler, tu avais beaucoup de gens qui venaient te voir de province, de partout, pour acheter des trucs dans la galère et te voir et parler avec toi et tout, tu vois.
C'est ça. Voilà.
Moi, pour la petite histoire, t'as vu, comme je t'ai dit, je suis génération 84. Ça veut dire que moi, j'allais traîner à Clignancourt le week-end pour aller voir ce qui s'y passait, les vêtements qu'il y avait et tout. Et j'ai connu Alpha au moment où... Donc, je pense que c'est tout au début, même ça avant, parce que je me rappelle qu'au moment où je parle avec un gars qui est grave cool avec moi, qui m'alpaque dans la rue, qui vend des canettes dans un stand, tu sais, dans un petit côté de stand qu'un oncle ou qu'un Sénégalais avait et lui laissait genre un stand mais large comme ça, tu vois.
C'est ça, tu es venu au début, toi, t'es un vrai.
Et qui vendent des canettes. Et il me parle, on se parle passionné de rap, on se parle de rap et genre on accroche direct, tu vois. Et quand je repasse un week-end après, ou quelques week-ends après, ou quelques mois après, je vois qu'il commence à faire une mixtape. Et là, du coup, on reparle et on se parle et on échange nos numéros. On parle de rap comme des passionnés. Ouais, t'as fait ça, nanana, ouais, lourd, nanana. On s'appelle pour de vrai.
Ouais,
et j'aimerais bien, à un moment, genre, j'aimerais bien pouvoir reparler à Alpha parce que, ouais, la dernière fois, j'en parlais à Sean. Et Sean, il me dit, mais frère, si t'arrives à avoir Alpha et que tu lui racontes cette histoire, elle va péter un câble.
Ah oui.
C'est-à-dire que vous connaissez depuis le début,
Alpha.
Tu vois.
Moi, je vais
c'est important. Mais donc, j'ai beaucoup de respect parce que j'ai vu l'ascension, en fait. C'est-à-dire, je l'ai vu au départ. Comme tu as dit tout à l'heure, on parlait de débrouille, de hustle, de débrouillardise, de monter quelque chose, etc. On est tous passés par là, en vrai.
Oui, bien sûr.
Même personne n'est arrivé. Enfin, si, il y a des gens, mais en tout cas, pas chez nous, pas dans nos milieux, où on est arrivé, tout était servi. Non, on a dû tout construire brique par brique. Et quand je vois des gens comme ça, j'ai énormément de respect aussi.
Ouais.
Parce que, ouais, après, le gars, il a fait ses mixtapes au début. Si je me rappelle bien, c'était des compiles. Il prenait des sons à gauche, à droite, il faisait ses compiles et il hostait. Il parlait un petit peu.
C'est ça,
bravo. Et après, il a commencé à rapper, etc. Et en plus, c'est un gars qui n'est pas né en France et qui rappait avec son truc. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que forcément, le gars a su rapper, faire des albums, faire des trucs et tout.
Ah ouais, non, c'est une bonne personne en plus dans le fond et dans l'âme.
Je vois qu'il y a beaucoup de respect entre vous. En tout cas, toi, tu as beaucoup de respect pour lui. Je respecte ça.
Alpha, quand j'ai chanté avec lui, c'était que de l'amour. Moi, j'étais à l'hôpital et j'avais eu un cancer, j'étais interdit de sortir. Et le médecin m'a dit, monsieur, vous ne pouvez pas sortir. Je dis, mais j'ai un clip là, vous ne pouvez pas me débrancher. Il me dit non. Et Alpha, ils avaient dit, bah écoute, c'est le clip, Guerre et Pan, on ne pourra pas le faire. Je dis, ben pas en juillet. J'ai débranché mes filles, je suis parti. On l'a fait le clip.
Et t'as fait le clip ?
Et on l'a fait le clip, je suis revenu le soir, je me suis rebranché.
C'est une anecdote.
Mais Alpha, c'est un bon. On a vendu des millions de CD avec lui. Et c'est un vrai travailleur, un vrai charbonneur. Et
Est-ce que tu penses que tu as vendu vraiment des millions ou c'est une façon de parler
genre. Ah, on a vendu des millions, mon champion. On des a fait des sous. Des... On a fait des sous.
Ça veut dire que vous avez.
Les sacs poubelles, ils étaient remplis, hein, frère. Ce n'est pas des sacs plastiques, et les donc, sacs poubelles. Hein.
Et donc, ça veut dire, ouais, vous avez des certifications perdues que vous n'avez pas. Enfin, on s'en fout des certifications. Oui, mais à la limite,
oui.
vous avez des albums qui ont vendu vraiment beaucoup. En
voilà,
fait.
Voilà. Nous, on allait en Pologne faire des 5000 pièces. On les recevait, on rappelait, renvoie-nous 5000.
C'est incroyable.
5000, c'était que par 5000. C'était les gens, ils ne savaient même pas. Nous, on ne voyait pas. Toute l'année, on vendait.
Ah ouais, c'est ouf.
Toute l'année, on vendait.
Tu voyais que ça débitait. C'était quoi la période où ça débitait le plus, l'ascension, le pic de c'est trop chaud. C'est avec tes vidéos, j'imagine que tu as.
Ouais.
Tes vidéos, ça a amené ça. C'était tu te rappelles des années? Au moment, ouais, je ne suis pas très bon en année.
Télé, c'est avec la télé, avec les émissions télé, avec. Ouais, c'était un moment pendant qu'on passait un peu à la télé, tu vois.
Ouais.
Avec Mitterrand, les problèmes avec Mitterrand, les problèmes un peu avec certaines personnes, Vinsley et tout ça. Et ça fait que ça a fait des ventes, tu vois. Il y a plein de gens qui sont venus nous soutenir.
Et on va revenir un peu sur ces vidéos-là et tout. Dans on va revenir après parce que j'ai plein de questions à te poser là-dessus aussi. Donc là, tu me dis qu'en fait, en gros, ce qui a vendu le plus, c'est les t-shirts ou les CD selon toi? Ou les deux?
Les deux.
L'un amené l'autre un petit peu.
L'un amené l'autre, ouais. À un moment, c'était les CD. Après, les t-shirts, ça a pris le dessus. Hein.
Les t-shirts ont pris le dessus.
Ah oui, les t-shirts ont pris le dessus.
Donc d'abord, ça commence par vendre des CD et après, les t-shirts gagnent. Ok. Et est-ce que... je pense que tu l'as déjà dit, mais est-ce qu'à un moment, tu as senti les maisons de disques venir vers toi? J'aimerais bien savoir ça. Parce que là, on parle de on a tout défoncé en indépendant, en vend. Est-ce qu'à un moment, il y a des gens qui disent « Putain, mais eux, il faudrait les signer, peut-être que ça nous rapporterait, il y a beaucoup de public et tout ».
Oui, moi, je remercie Julien Musicas. Je ne l'oublierai jamais dans ma vie.
Oui.
J'oublie jamais les gens avec qui je travaille, qui m'ont donné de la force. Julien Musicas, grosse force à lui. Et moi, un jour, j'étais avec Kamel l'Ancien. Kamel, il me dit, viens avec moi à la maison disque et tout, je vais chercher des CD pour que tu les vendes. Moi, je vendais ces CD, donc je vais les chercher chez Julien Musicas, là-bas, à Paris. Mm-hmm. Et je tombe sur Julien, il me dit, très gentil, tout. Il me dit, c'est toi, Morsaï? Je dis, oui. Il me dit, écoute, je veux prendre ton CD, le son du Terre-Terre 1, tu m'en ramènes? Alors, je dis, non, maison disque, je travaille pas avec vous.
Ok.
Il me dit, non, mais attends, mais moi je suis tranquille, je vais te vendre. C'est quoi? Il comprenait pas. Il dit, t'as un problème comme mec.
Ouais.
Je dis, non, je vends pas. Moi, je suis indépendant jusqu'à la mort. Il me dit, tu restes indépendant, tu dis ce que tu veux. Moi, juste, je les pose en fin. Non, je voulais pas.
Donc, t'as toujours refusé ça.
J'ai toujours refusé. Et ensuite, je sais plus comment ça s'est passé, mais après, Kamel Ancien qui est revenu me voir, il m'a dit, même ça, il veut te les mettre en Fnac, il va pas.
Oui, c'était un contrat de distribution.
T'es pas
ça veut dire, lui, il te propose une mise en place en magasin et il te donne de l'argent sur tes ventes, en fait.
Voilà.
En plus de vendre à Clicky, ils auraient vendu aussi en Fnac et tout ça.
Et puis après, comme j'ai vu, il était gentil, en fait, il était pas. Et je dis, pourquoi je vais dire non tout le temps, non à tout le monde? J'ai dit, vas-y, ok, d'accord, on va travailler ensemble pour le prochain. Il m'a dit non, et je veux travailler avec celui-là aussi, il cartonne. Et on l'a fait après, du coup. Il a redupliqué. Et puis
tu l'as fait quand même?
On l'a refait après et on a vendu.
Tu es resté indépendant comme aujourd'hui, par exemple, le modèle PNL. Ils sont en distribution, et ils n'ont rien signé d'autre qu'un contrat de distribution.
C'est ça, voilà.
Ça te permet de diffuser ta musique partout.
Voilà.
Et toi, tu tenais à cette indépendance et à garder le point de vente. Si les gens veulent céder, c'est à client court, quoi.
Voilà.
C'était ça ton...
C'était important parce que comme ça, c'est moi qui décide quand ça s'arrête ou quand ça...
Ouais. En plus de ça, tu devais trouver ton modèle économique et ça te convenait comme ça. Et...
On gagnait bien en plus.
Vous étiez combien en fait?
En tant que
propriétaire du truc, quoi.
Alors, moi, avec moi et ZRF, après, on avait des vendeurs.
Ouais.
Donc, j'ai eu des bons vendeurs. Hein. J'ai eu des vendeurs qui sont devenus des grandes stars. Hein.
Qui?
M20, un rappeur du 69, Lyon. J'ai eu Lal Business, un rappeur du 59.
Okay.
Il cartonne les réseaux. J'ai eu Alias, j'ai eu beaucoup de monde.
En fait, les mecs, ils venaient et puis ils faisaient un peu leur nom en même temps, quoi.
Ouais. J'ai eu même la chérie à La Crime qui a bossé avec nous. Et franchement, elle était, c'était une des très bonnes vendeuses, très sérieuse. Elle recalait les mecs quand elle sortait avec La Crime qui n'avait rien. Faut pas oublier ça aussi.
Ça, c'est important, ce que tu dis.
Elle était très gentille, sa femme. Et
loyauté, on parle encore de loyauté.
Ouais. Elle était vraiment, franchement, je trouvais ça choquant. Enfin, il y a des filles sérieuses. d'habitude, tu vois, le mec qui vient avec un Mercedes, la meuf elle monte, hein. Tu vois, t'oublies son mec direct, hein. Et là, elle, non, elle était vraiment grave sérieuse. Pourtant, la crème à cette époque-là, elle n'avait pas de sous.
Ok.
Pas oublier ça.
Très important, ouais, t'avais décidé de mettre des filles un peu aussi pour dans pour... le centre, pour ça soit un peu.
Oui, voilà, pour vendre.
Un
et
peu
tout
moins
ça.
Que des lascars, quoi.
Oui, voilà.
C'est fort. T'as eu un moment aussi dans ton. T'as eu un incendie à un moment. T'as connu un incendie dans les. Donc là, j'imagine qu'on a la période où ça tourne bien et
ça
tout.
Ça tournait bien, j'avais de la bonne sape, j'avais des mannequins, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais une bonne. J'étais bien installé. Et ben, on m'a brûlé la boutique. Ben, les jaloux, ils sont partout, ils sont là. Hein. Mmh. C'est la vie. Hein. Il faut accepter. Hein. Si je l'ai rattrapé, j'aurais arraché sa tête. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est la vie, tu vois. Et
comment t'as réussi à te relever après ça?
Moi, j'avais déjà beaucoup d'argent de côté, donc c'était pas le problème de me relever, ouais. C'était le problème de la boutique. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'aimais beaucoup cette boutique.
Ouais, on parle plus d'un délire sentimental là.
Voilà, tu as tout compris.
Ouais,
tu connais.
Quand t'as construit quelque chose, c'est forcément. Ouais.
Tu connais.
C'est toute ta vie en fait.
Des ambiances, des rigolades, des embrouilles, tout. Et donc après, ça m'a fait un peu mal au cœur, ça m'a un peu dérangé, mais après j'ai repris deux autres boutiques tout de suite après.
Et c'est là que t'as deux boutiques. Elles sont placées.
J'ai pris l'autre juste en face.
Ok.
Pour rester sur Paul Bert toujours.
Ah, c'est c'est l'historique.
Voilà.
Et tu vends deux choses, tu vends les mêmes trucs dans les deux boutiques ou t'as deux concepts genre.
Alors j'ai deux concepts. J'ai une boutique où je vends ma sape et tout ça, et j'ai une autre boutique que je vends un peu de l'antiquité, de la brocante, un peu
okay,
de tout.
Ouais.
J'aime bien aussi, tu vois.
Ouais. C'est l'ADN qui est en cours.
C'est l'ADN de qui est en cours. C'est fait toucher.
Et les CD, fin. Tu
vends plus de CD? Non, j'en vends toujours.
Tu vends toujours.
Je vends toujours. Ouais, je vends toujours.
Ce que tu as vu, nous ici, c'est ce qu'on fait, on revend du CD, ça
bravo.
Marche le CD, même les jeunes achètent des CD et tout, tu vois.
Ouais, bravo.
Donc ça marche.
Ah, bravo.
Donc, c'est pour ça que je voulais savoir. Ouais.
Bah, t'es un des seuls, hein, maintenant, aujourd'hui, qui gère, hein, parce que t'es une plateforme, mais t'es une machine de guerre. Nous, tu sais, nous, à notre génération, il n'y avait pas des mecs comme toi, tu vois.
Ouais,
aujourd'hui, c'était... toi, tu seras à notre génération, c'est pas un avion, c'est une fusée de chasse que tu nous ramènes.
Mais justement, moi, ce que je veux dire, c'est que nous, on fait ça aujourd'hui, d'accord, mais... Je crois que on voit un peu la jeunesse, que fait la jeunesse, comme on en parlait tout à l'heure, mais les réseaux, ils gèrent bien les réseaux, ils sont nés avec, ils sont des communautés. Aujourd'hui, on voit des rappeurs pop apparaître comme ça. On les a jamais vus peut-être nulle part, mais ils ont déjà leur communauté, ils vendent déjà des CD, ils vendent déjà du merchandising, ils sont très très chauds, tu vois. Mais je trouve que toi, t'avais déjà ce modèle-là avant même que ça devienne quelque chose de normal, le côté marketing. Par exemple, toi, tu faisais beaucoup de vidéos choc et scandale. Et je pense que, parce que maintenant que je te connais, je vois que t'es. Enfin, je pense que tu sais en jouer aussi, en vrai.
Ah oui, faut savoir
tu
jouer.
Tu joues ton rôle.
Faut savoir taper dans le ballon et faire une feinte au goal pour marquer.
En fait, un joue de ouf et je trouve que t'as vu, tu sais dire que tu vendais tes sapes et t'avais ton spot, client en cours, tu vendais tes CD, tu faisais de la promo, c'était tes vidéos, tu faisais des trucs chocs, etc. Et ça amenait le public et ça faisait cliquer. Comme tu
cliquais, j'aime bien cliquer. Les gens qui cliquent. Parce qu'il y a deux sortes de cliqueurs. Il y a les cliqueurs que j'aime et les cliqueurs de salopes. C'est-à-dire cliquer bande de salopes, c'est ceux qui envoient des messages mal sur Internet. Et les cliqueurs les meilleurs, c'est ceux qui m'envoient des bons messages ou qui m'aiment.
Voilà. Et les clics qu'on préfère, c'est les clics des haters qui cliquent quand même, c'est
voilà.
Ça.
Voilà.
Et c'est lourd. Et il y a un truc qui est resté aussi très important dans tous les t-shirts que tu as créés. Et là, il faut que tu me racontes l'histoire, comment c'est venu. Parce qu'on parlait du premier truc.
Dis-moi, mon champion.
Où du premier t-shirt, du premier Teddy où tu as écrit ce que tu nous as dit au début. Mais là, il faut que tu me parles d'un truc qui est resté iconique aujourd'hui et dont j'entends beaucoup de personnes me parler. C'est ces t-shirts avec les dos, avec les grands messages.
Ah oui, ceux-là.
Raconte-moi. Comment... Tout vient de ta tête?
Ouais, tout vient de ma tête. J'aime bien.
C'est des textes ou c'est des punchs que tu veux écrire sur les t-shirts?
Ah non, c'est des trucs moi-même, déjà, je porte et j'aime bien porter, tu vois.
Mais comment c'est créé? Raconte un peu la création.
C'est dans ma tête.
Toi, tu dis, je vais écrire ça, cette longue phrase. J'ai vu je me rappelle de longues phrases.
Exemple, j'ai un t-shirt que j'aime beaucoup, c'est Je pisse sur la tête des racistes du haut de la Tour Eiffel.
Ça, c'est ton classique. C'est ton classique, on va dire.
J'aime la France, j'aime les Français pas racistes, j'aime la Tour Eiffel parce que c'est une belle pièce quand même. Mmh. C'est la vérité.
Bien sûr.
Et si je monte en haut et je paye mon billet, bah, il faut bien faire quelque chose.
Je viens le rentabiliser.
Je pisse sur la tête des racistes de là-haut. Mais.
Non, elle est profonde, cette phrase. Voilà. En vrai, elle est profonde.
Mais ça veut tout dire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, et ça, c'est sincère, je vais vous le dire, parce que ma carrière, elle n'est pas d'hier. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas racistes. Et eux, franchement, je les remercierai toute ma vie parce que c'est vraiment des bonnes personnes. C'est des gens que c'est grâce à eux que moi, aujourd'hui, je respecte encore la France. Je vous jure que c'est vrai. Et ces personnes-là, c'est pour eux que je reste encore à Clignancourt, que je reste ici. Parce que sinon, je serais déjà parti en Italie ou en Espagne à la Jonquera en train de tartiner des grosses. Voilà, tu vois, la vie de rêve.
La vie de rêve. Mais ouais, donc du coup, ouais, c'est vrai que tu parles... Oui, parce que dans ce message, si on le reprend, c'est que tu... Si on le prendrait en mode psychologique, on va dire, j'ai pas fait d'études là-dedans, mais je l'imagine comme je l'imagine, la Tour Eiffel, c'est que tu représentes Paris en parlant de la Tour Eiffel et tu pisses sur la tête des racistes.
Voilà.
Tu parles beaucoup des racistes, je m'en rappelle.
Oui, parce que j'ai eu des problèmes quand déjà j'étais petit, puis il y a encore des problèmes maintenant, il y a encore des problèmes tous les jours.
Il y a tout le temps des problèmes de racisme, je suis d'accord.
Et le raciste est le cancer de la France. Ouais. Je vous jure, s'il n'y a pas le raciste en France, la France est le plus beau pays au monde.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Je vous jure que c'est vrai.
Il y a encore des problèmes comme ça, même aujourd'hui. À l'époque, peut-être un peu plus.
Un peu plus.
Maintenant, le métissage, bah, forcément, nos générations au début, bah, c'était les premiers mélanges en vrai.
Ouais, moi j'aime bien le métissage. Grosse décasse à tous ceux qui se mélangent.
Bah ouais,
magnifique,
bah c'est ça,
quand je vois un mélange, c'est magnifique. Et c'est ça l'avenir, tu vois. Parce qu'on n'a pas demandé la couleur de naissance quand on est né. On n'a pas dit, ouais, je vais être un rebeu, je vais être un renois ou je vais être un blanc. Mmh. Je suis ce que je suis. Moi, je suis né rebeu. J'aurais pu être né renois ou j'aurais pu être né blanc. Sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter toutes les couleurs de toute personne.
Mais si tu parles de racisme beaucoup, c'est parce que tu en as un peu souffert.
J'en ai un peu souffert, ouais. Petit, très petit. Ça traumatise les enfants, ça. Je suis traumatisé, les gars.
D'accord, tu te sens exclu et tout.
C'est pour ça que je suis devenu ouf.
Et donc, il y a beaucoup de messages à ce sujet-là aussi sur les t-shirts.
Oui, voilà.
Qui designait tes t-shirts
Alors, j'avais le frère de Medizou qui me gérait ça. Et j'avais une petite meuf qui travaillait avec une petite boîte qui bossait aussi avec nous, qui était super gentille. Et après, nous-mêmes, on les faisait aussi, nous. Hein. Et il y avait aussi Hicham aussi, qui a Saint-Ouen au marché aux puces.
Qui designait aussi, qui vous faisait les designs. C'était rapide, ça se faisait. Tu veux ça, tu validais, c'est toi qui validais.
Voilà, c'est moi qui validais, c'était vite fait, c'était bien. Allez,
ouais, on va. Lourd. Lourd de ouf. Tu peux nous parler un peu de... On va parler de la partie réseau, donc la partie YouTube, etc. Si tu veux. Parce que c'est une partie importante dans ton domaine, le contenu, tout ce que tu lâchais. Le clash avec, comment il s'appelait déjà ?
Vinsley.
Vinsley, c'était ?
Ouais, c'était okay. Vinsley. Il y en a eu plein, mais Vinsley, c'était, je crois, le plus gros, je pense.
Il y a eu plusieurs classes.
Plusieurs, ouais. Il y a eu toujours des... Moi, il y a eu trop de clashs avec moi.
Je me rappelle pas tous, les gens.
Ouais, après, parce que mes comptes, ils sautaient, donc les gens, ils voyaient pas toutes les vidéos.
Et c'est à quel moment que tu te rends compte que Internet, c'est puissant, justement ?
Alors, à quel moment ? C'était quand il y avait Dailymotion encore à l'époque, et ils arrêtaient pas de me boycotter Dailymotion, ils me coupaient mes vidéos... Et j'aimais bien pourtant Dailymotion, je voulais être... J'en ai marre. Et puis après, j'ai eu un mail de YouTube, et j'ai été voir, et je vois, c'était... Vous pouvez ouvrir votre compte YouTube.
Ah, tu l'ouvrais pas comme ça à l'époque, le compte
YouTube. Tu l'ouvrais pas comme ça, ils t'envoyaient un mail. Vous pouvez ouvrir un compte YouTube avec ce numéro de code. Donc, je fais le code, tac. Après, ils me disent, oui, bravo. Vous faites partie des gens qui sont légitimes. Vous pouvez balancer vos vidéos sur les réseaux. Et après, mon pote, il m'a dit, putain, on peut ouvrir un compte. Et YouTube, c'est international. Et moi, je n'aimais pas le truc que nous, tu vois. YouTube, c'est New York, c'est chinois, c'est tout. Parce que Dailymotion, c'était que la France, un peu la Belgique, un peu la Suisse. C'était
francophone. Ouais.
C'était francophone. Et moi, je voulais être connu dans le monde entier, moi, champion. Ouais. Je voulais jouer avec les petits Chinois, ils me disent « Bonjour Marseille !» Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois bien ce que je veux dire.
On voulait un peu pécho des petites Chinoises.
Normal.
Je rigole. Mais à la finalité, YouTube, je m'ai mis dessus et puis c'était un truc magnifique. Hein. YouTube, donc, ils nous ont beaucoup aidé. Hein.
Comment tu t'es rendu compte de la puissance ?
La puissance, ben,
c'est après... Quelle vidéo tu dis « Putain, c'est vraiment très puissant YouTube et tout.
Ouais, c'est
quoi ta vidéo qui pète ?
C'est ta vidéo à message internet avec Schlaghetto. Je pense que c'est celle-là.
C'est quoi cette vidéo déjà ?
C'était une vidéo où j'insulte tout le monde, Booba, j'insulte les jaloux, les racistes. Et j'étais avec un mec qui s'appelle Schlaghetto, qui a le sida, c'est un jeune de banlieue.
Ça, je m'en rappelle, je crois.
Voilà.
Et tu dis quoi ? Vas-y, raconte.
Et Schlaghetto, je dis, je vais te donner un peu d'argent, tu vas tartiner sa meuf. Il dit, je te baise.
Et là, la vidéo, elle prend grave des vues.
Et moi, j'aurais jamais cru. Moi, je l'avais fait pour 2-3 personnes qui me clashaient. Ouais. C'était pas pour que les gens ils la partagent. Ouais. Moi, je l'avais fait vraiment pour les gens.
Genre, toi, tu t'es dit, je fais une réponse en vidéo à quelqu'un.
Voilà. Je l'ai mis sur les réseaux. C'était pas pour faire du buzz. Qu'un moment, j'ai voulu faire un buzz, hein, frérot, sur ce coup-là.
Ouais, bah, j'imagine tu que c'était pas voulu. Ouais.
C'était pour... J'avais un message à passer. Ouais. Et je voulais le faire passer parce que je les attrapais pas. Donc, ouais. Le message était passé, mais il est passé partout.
Est-ce que tu penses, justement, c'était pour ça que ma question, est-ce que genre tu te rends compte de la puissance du truc et tu te dis, mais en fait, ça me ramène du monde, ça me ramène de la vue, ça me ramène de la visibilité, peut-être même qu'il y a des gens qui viennent au stand après ça,
oui, c'est
te voir et tout, et donc faire du business en fait.
Et puis après, oui, c'est vrai qu'après, avec ça, après j'ai commencé à comprendre, et puis après j'ai créé la machine, quoi, les vêtements, les trucs, ouais. j'ai tout mis avec.
Tu t'es dit, les gens, ils viennent, autres qui viennent acheter un truc.
Souvenir. Il y a beaucoup de gens qui venaient et tout. Je les remercie vraiment tous, hein, tous ceux qui portent ma marque. Je vous remercierai jamais autant. Même ceux qui n'ont pas porté, qu'ils auront aimé ou qu'ils n'avaient pas les moyens, ouais. Je les remercie aussi parce qu'il y en avait plein qui étaient loin dans les campagnes, qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc, je vous remercie tous, hein, tous, ouais. Vraiment tous. Je vous aime. I love you.
T'as du love. Hein.
Eh oui.
Et du coup, avec les vidéos, tu vois, parce que c'est sûr que tu le vois, parce qu'on peut devenir, entre guillemets, un mème. Tu deviens un mème à un moment. Tu peux le vivre mal. Mais toi, parce que j'ai l'impression à un moment tu l'es, mais tu n'en avais rien à foutre. Tu surenchérissais carrément.
Ma parole, j'ai fait un tube. Je m'en bats les couilles. Disque d'or, les gars. Je m'en bats les couilles. Ils peuvent tout dire sur moi. Je suis un drogué. Je fais partie de la gay pride. C'est moi qui ai inventé ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout sur moi. Ça ne me dérange pas. Je suis là. Cliquez, bande de salopes.
Et tu continues. Voilà,
la dernière phrase. Cliquez, bande de salopes.
Et donc, tu comprends.
Et faites attention si vous avez une chérie. Je viens, je la tartine. Je la fais tourner à mon chameau.
Donc ça veut dire que tu comprends le truc pour moi. Tu comprends, mais tu surenchéris. Tu continues. L'autre, je me rappelle un peu plus du clash avec l'autre là, avec le Vinsley. Tu l'as jamais vu.
J'ai jamais vu.
Entre parenthèses.
Ouais.
Mais t'as compris que ça faisait du buzz et tu t'es dit, moi je surenchéris, je lâche pas l'affaire.
Non, c'est avec la Vinsley, non. Avec Vinsley, non. J'étais énervé. Et
je
donc
il montrait. Je te voyais énervé.
J'étais vraiment. Lui m'avait vraiment énervé. C'est après Vinsley que j'avais compris. Mais pendant Vinsley, je croyais que c'était réel quand il me disait, j'arrive. Moi la nuit, mon pote, je dormais pas.
Ouais, c'était un espèce de jeu un petit peu, ouais, qui s'était créé.
Je pense que j'ai même attrapé un cancer à cause de ces conneries.
De vénère, de nerfs.
Oui, les nerfs et tout ça, l'anxiété, tu dors pas, c'est pas bon.
Donc, peut-être ce passage-là des vidéos, ça t'a quand même un peu touché au final.
Ça m'avait un peu touché au départ.
Dans la vraie vie, je pense que tu utilisais les trucs comme YouTube, etc., mais en vrai. Pour toi, c'était réel, en fait.
C'était réel. Moi, je ne comprenais pas. Quand un mec me disait, j'arrive, je vais te niquer, je disais, vas-y, j'arrivais. Moi, comme un coup, j'étais calibré, n'importe qui, voilà. C'était chaud.
Ouais.
Et je remercie Dieu, et je remercie mes anges, je remercie les gens autour de moi, parce que j'ai pas tué quelqu'un, j'ai cette chance-là. Enfin, encore, j'ai pas encore.
Non, mais c'est bon, ça y est.
Oui, c'est bon. Ouais, c'est pas fini. Posé.
Et tu te rends compte aussi, donc ça, déjà, c'était cool. Je trouve que tu as eu... C'est quand même une force, tu vois, parce que tu rappes, donc t'as l'esprit d'un rappeur, d'un entrepreneur parce que tu vends.
Alors moi, en vrai, en réalité, ouais, je suis pas du tout un rappeur. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'avais produit un rappeur qui est pas venu au studio. Moi, j'avais payé 80 ou 100 balles ou 120 balles, je sais plus, une somme. Et il aurait passé. Je dis, putain, l'enfoiré. Attends, il croit que c'est sa mère qui paye le studio, ce bâtard. Je dis, oh. Et l'ingé, il attend, il regarde. Et lui, il s'en fout, il me dit... Bon, là, ça fait une heure, hein. Il me regarde, il voit, lui, il s'en fout, il veut des sous. Mmh. Tu vois, il a raison. Et je dis, attends, vas-y, allume ton micro, là, je vais chanter. Et c'est là que j'ai dit, il faut que... Je pouvais pas perdre l'argent. Je voulais, ouais, 100 balles à l'époque, c'était énorme.
Tu t'es dit que t'allais poser un truc.
Je suis rentré, j'ai fait le morceau.
Ok.
Voilà.
C'est marrant, parce qu'Alpha aussi, Alpha 5V, c'est jamais considéré comme un rappeur, au final.
Voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que le rap, en fait, c'est des mecs qui sont forts, tu vois. Moi, c'est de la revendication.
Toi, tu t'es toujours dit revendicateur.
Ouais, c'est pour ça que ce que tu m'as dit, ça me touche, ça me fait plaisir. Quand tu me dis, t'es un rappeur, ça me fait plaisir. J'ai dit, putain, ça va. Le mec, il dit que des conneries. Et puis, ça va, j'ai quand même la médaille.
La preuve, c'est que tu ne te considères pas comme tel, ouais. Mais tu te rends compte, parce que t'as vu tout ça, là. les t-shirts, t'as vu, tout à l'heure, je te parlais d'un truc aussi important, j'en parle souvent, mais il y a un public, un jeune public qui a retracé l'histoire du rap français, qui cherche les trucs, qui tombe sur des choses. Et aujourd'hui, toi, t'es quand même un visage d'une certaine génération qui te reconnaît, qui reconnaît tes t-shirts, qui analyse tes t-shirts, tes trucs, et qui... T'es quelqu'un, je pense que quand tu viens ici, tu te fais reconnaître.
Oui, ça fait plaisir.
Par des jeunes ou pas ?
Ouais, par des petits jeunes, ça fait plaisir. C'est vrai que quand quelqu'un vient me voir, me demande une photo, je suis toujours ça me fait toujours chaud au cœur, tu vois. Et c'est vrai que ça fait plaisir, parce qu'avec toutes les conneries non plus qui est mélangée avec les trucs bien que je fais, ça fait un peu les gens ne savent plus s'ils viennent pourquoi ou tu vois. Mais après.
Mais t'es tranquille avec ça, c'était ça le sujet
moi,
aussi.
Moi, je m'en fous. Même on me dit mon c'est le plus grand gogol de la terre. Je dis merci. Allô ta meuf, est-ce qu'elle a un bon huc ? Boum, j'y vais. Tartine comme ça, ghetto.
T'es pas comme ça, en fait, ça se voit quand je te parle là en perso, etc. Tu fais de l'entertainment, quoi. Tu fais de l'amusement, en fait.
Voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime bien aussi. Ouais, c'est vrai. Il me connaît bien. Il est bon, hein. Très fort. Hein.
Et aujourd'hui, tu continues à faire des vidéos, j'ai vu.
Oui, j'aime bien. Bon, après, je vais me remettre à fond parce que je suis mis un peu dans l'immobilier, mon champion, je te dis la vérité. Tout ça de côté. Parce que quand tu as des enfants, tu es obligé de faire attention aussi à leur avenir, tu vois, c'est important. Tu vois, moi, j'ai fait le con toute ma vie, je ne vais pas continuer jusqu'à la fin à faire le con. Voilà, donc là, je me mets un petit peu dans l'immobilier, je suis super content, j'ai fait des bons investissements, maintenant je vais repartir je vais faire la Vengeance 4 et je vais revenir dans le game, je vais tout niquer.
C'est chaud.
Ah, je suis chaud, préparez-vous. Attachez vos ceintures, l'avion va décoller.
Tu reviens avec du con. T'aimerais faire quoi comme vidéo ? Genre, t'as un projet de faire des vidéos ?
Moi, j'aime tout.
Ou c'est nature, tu te filmes et vas-y.
Moi, j'aime bien. Moi, je peux me filmer en train de faire un barbecue. Je peux me filmer en train de tartiner une meuf. Je peux tout faire.
Ok.
Je peux tout faire. Et j'ai plus de limites.
Combien t'as vendu de t-shirts à peu près, tu sais ?
Franchement, je pourrais pas te dire, mais j'ai dépassé les
millions. Tu veux parler d'argent ? De chiffre d'affaires que t'as pu faire, genre en une année, dans la grande époque ?
En une année, à la grande époque ?
Non, mais t'es pas obligé d'en parler, moi, je te demande si t'es...
Ouais, je peux te dire. Moi, j'ai fait... j'ai dépassé le million, facile, hein. En une année, hein. Ouais,
donc c'était du gros business.
C'était du gros business. Moi, le matin, je me réveillais, j'avais les mecs, ils n'arrivaient pas. Je te jure, tu vas connaître ça, ou tu connais ça déjà, ne suivez pas le temps de vente. Ils ne suivaient pas les commandes. Je te jure
comment
que c'est vrai.
Je comprends pas.
J'avais des commandes.
Ah, ils ne respectaient pas les délais, c'est quoi ?
J'arrivais pas, les mecs, je les appelais, je dis, il me faut 500 pièces là, 200 pièces okay. là, 300
pièces là. Ils n'arrivaient pas à suivre, ok.
Le lendemain, je les rappelais, je dis, il m'en refaut encore. Il n'avait même pas encore démarré la machine. J'étais obligé de travailler avec les Chinois. Okay. Allez faire enculer, vous voulez pas gagner votre vie, crabe les yeux ouverts. Je m'énervais contre tout le monde.
T'avais plus de demandes que de matériel.
Ma parole, des fois, le samedi, j'ouvrais le stand, le magasin rempli comme ça, max, au max. Je te jure, samedi matin, il y avait déjà une queue au stand. Ma vendeuse, elle ouvrait le magasin, elle m'appelait, elle me dit, il y a une embrouille. Et je comprenais pas, moi, je croyais qu'il y avait une embrouille. J'arrivais, non, il y avait trop de gens qui m'attendaient pour faire des photos, des Belges, des Suisses. Les gens, ils venaient de partout. Et ça, c'était mon kiff.
Bah ouais.
Des Suédois, des.
Ils avaient de l'amour pour toi.
Ils voulaient me voir, tu vois. Et ils prenaient leur t-shirt et ils étaient contents, tu vois. Et ça m'a vraiment fait plaisir.
C'est fort.
Ouais, j'étais content.
C'est fort. C'est pour ça que je me permettais de demander le chiffre. Parce que tu vois, ce que je te disais, finalement, sans le vouloir, nous, on est en train de faire, on a monté quelque chose qui est de vendre du merch. Ce truc-là aussi, c'est pour la culture des gens. Parce que je pense qu'il y a des gens, ce truc qu'on fait là, cette discussion, il y a des gens qui, ces gens-là qui cherchent à retracer un peu chaque marque, chaque univers, etc. Là, c'est intéressant de raconter celui de Marseille parce que vous êtes sans le vouloir. Des acteurs de la vente de t-shirts importants dans un autre domaine qui est celui de client court, donc un peu parallèle, mais aussi important. Et là, tu me dis, c'est pour ça que je voulais que tu répondes à cette question. Tu as répondu à cette question. Vous avez vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de t-shirts, énormément, des centaines de milliers de t-shirts.
Mais je vais te dire une chose et la vérité, mais sur le site internet, c'est toi le plus champion.
Ouais, dans un autre domaine.
Voilà.
Dans un autre domaine. Ouais, non, après, ouais, avec l'époque, on s'adapte, tu vois, par Internet, maintenant, parce qu'il faut toucher tout le monde, même si... Voilà. Mais ça a deux charmes différents, parce que les gens, ils se déplaçaient pour venir à Paname et vous voir et prendre des photos, tu vois, c'est différent, en vrai.
C'est
deux
vrai.
Axes différents. Mais oui, Internet, forcément.
Mais en tout cas, bravo aussi à toi parce que tu travailles super lourd sur Internet. Et c'est l'avenir, c'est Internet. Hein. Maintenant, c'est les gens, ça va vite. C'est les mails, c'est les téléphones. C'est... Et toi, t'es le meilleur sur ça aujourd'hui. T'es une machine de guerre et on te félicite aussi. Hein.
Merci, mon voilà. C'est gentil. Est-ce que tu veux dire quelque chose à la fin? Est-ce que tu veux... Qu'est-ce Bien que sûr. Tu conseillerais le mot de la fin? Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui écoutent? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui écoutent pour s'inspirer, mais pour connaître la culture ou pour s'inspirer, pour plus tard créer leur marque, etc. Est-ce que tu as un mot de la fin, une inspiration? Et ton mot de la fin à toi.
D'accord, ok. Alors déjà, pour commencer, tous les rappeurs, les meilleurs rappeurs, venez ici sur le site de Notre Frangin. C'est le numéro 1 du site Internet. Je suis moi-même avec les frangins, parce que c'est les numéro 1. Donc, merci on les remercie moi. Forcément. Et tous les jeunes, ne soyez pas jaloux, parce que la jalousie, ça va vous amener nulle part. Pensez à avancer dans votre avenir, tu vois, et vous allez réussir. Après, moi, je remercie tous ceux qui m'ont aimé, ceux qui m'aiment pas. Super Marseille, il arrive.
Merci beaucoup, Marseille, pour
merci
ce moment.
Merci à toi, mon petit champion. Et grosse dédicace à Best of Butch World.
Bien vrai.
Les numéro 1 dans le site internet, les numéro 1 dans le rap français, ils ont tout, ils font tout. Tous les nouveaux rappeurs et tous les anciens rappeurs, venez. C'est lui le meilleur. Et ça sera vous les meilleurs si vous venez. Si vous venez pas, bah, crevez les yeux ouverts, mangez du pain sec, allez faire la manche au métro.
Merci mon ref.
Merci. Merci la merch.